Pour être honnête avec vous, une question qui m'a préoccupé pendant une partie de la semaine, c'est sur quoi prêcher. C'était pas forcément une vraie question. Enfin, la question était biaisée puisque si vous êtes là à l'église si vous étiez là les dernières semaines, vous savez que aujourd'hui débute une série de prédications sur les missions de l'église. Je ne vais pas vous parler des missions de l'église, on en a parlé lors de notre week-end d'église. Il y a un édito du bulletin, le numéro de janvier, qui est sur la table au fond. Prenez-le, vous y trouverez la liste des missions que nous identifions, que Dieu donne à son Église. L'adoration, l'amour fraternel, l'enseignement et l'évangélisation. Et nous avons décidé, pendant les quatre dimanches qui viennent, d'avoir quatre prédications, une sur chacune de ces missions. Aujourd'hui, c'était prévu la première de ces quatre prédications sur notre mission d'enseignement. Le thème était donc fixé depuis longtemps. Et puis, il m'est venu en tête cette question durant la semaine. Est-ce toujours pertinent ? Est-ce toujours pertinent, après cette semaine, où nous avons peut-être pensé à autre chose, nous avons été peut-être troublés par ce qui s'est passé dans notre pays. Et à la réflexion, oui. Oui, je crois que c'est pertinent de parler de l'enseignement, de la parole qui est la vérité, en particulier à l'issue de cette semaine. Nous avons vu cette semaine des représentants de l'islam qui se trompent et qui poussent leur erreur jusqu'à un drame incompréhensible. Alors, laissons l'islam régler ses problèmes. Nous pouvons prier pour eux parce que ces problèmes sont grands. Mais nous pouvons aussi regarder chez nous. Nous aurions tort de nous leurrer et de penser que nous sommes à l'abri de toute erreur. Nous sommes humains, nous sommes pécheurs. Le risque de mal comprendre la parole de Dieu, de tordre l'enseignement du Christ et de finalement partir dans de mauvaises voies, ce risque existe. Et à ceux qui en doutent, l'histoire peut le rappeler. Sans remonter jusqu'aux croisades, j'ai lu sur Internet quelque chose qui me l'a rappelé lorsque quelqu'un se souvenait que le Ku Klux Klan, par exemple, se réclame du christianisme. Aussi, je crois qu'une exhortation à nous attacher à la saine doctrine, à l'orthodoxie, est très actuelle. Oui, également, oui, parler d'enseignement est utile aujourd'hui parce que nous l'avons chanté et la Bible le dit, la parole de Dieu est une boussole, une lumière sur notre chemin. Quelque chose que Dieu nous a donné pour nous aider à nous diriger dans ce monde. Et au moment où notre cœur est troublé, il est bon de savoir comment reconnaître cette lumière. Comment la suivre et réfléchir là-dessus. Nous parlons donc de la mission d'enseignement de l'Église ce matin. C'est une question qui est très présente dans la Bible et j'en donnerai un exemple, celui de la lettre de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3. Vous le savez, si vous fréquentez cette église, nous étudions de manière suivie la première épître aux Corinthiens que Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe. Régulièrement, Nous prenons un texte à la suite les uns des autres dans cette épître. Nous en sommes au début, nous venons de finir le chapitre 2. Et justement, on arrive là au début du chapitre 3. Et comme par hasard, Paul parle d'enseignement. Alors je vous propose de partir de ce texte. Et puis ensuite, on y élargira un petit peu la question pour une compréhension plus large. Mais partons de ce texte. 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1. Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne pourriez pas, parce que vous êtes encore charnel. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi j'appartiens à Paul » et l'autre « Moi à Apollos », êtes-vous autre chose que des humains? Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je le disais, nous étudions la première épître aux Corinthiens de façon suivie. Et donc, nous avons vu un peu le contexte dans lequel Paul écrit à cette église. C'est un contexte de division où les gens se cherchent des partis, des maîtres à penser au sein de l'église qu'ils veulent suivre. Et là, on voit un exemple à la fin du passage que nous avons lu, certains se réclament de Paul qui écrit cette lettre, certains se réclament d'Apollos, un autre enseignant qui est venu à l'église pour l'enseigner après Paul. Et voilà, et ainsi, ils sont en conflit les uns avec les autres, choisissant chacun un parti et débattant sans fin. Ils sont aussi dans l'esprit de leur époque, à vouloir rechercher la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose que l'on cherche, comme une quête, comme un trésor à trouver, un trésor caché que seuls les plus intelligents, les plus avertis peuvent aller chercher. Et dans le passage qui précédait, au chapitre 2, Paul a justement parlé de ça. De la sagesse de Dieu qui n'est pas du tout au même plan que la sagesse humaine, la sagesse du monde qui les entoure. La sagesse de Dieu, ce n'est pas quelque chose de caché, qu'il faut trouver, découvrir, mais la sagesse de Dieu, elle est révélée. Elle est simple, révélée, et il faut l'accepter par l'esprit. Et dans le passage que nous étudions la dernière fois, Paul les invite vraiment à ne pas se laisser détourner de la vérité révélée en Jésus-Christ pour rechercher autre chose. Au chapitre 3, comme dans le passage que nous avons lu, comme un à côté, il parle de maturité. De maturité, de croissance. Et il reproche aux Corinthiens de ne pas être des adultes, mais des tout-petits, des enfants, des nouveau-nés. Et en parlant de maturité, il va parler de progression. Et en parlant de progression, il va parler d'apprentissage et en creux, d'enseignement. Qu'apprenons-nous à travers ce passage sur l'enseignement dans l'Église? Déjà, une première chose que nous apprenons, c'est qu'il y a pour le chrétien une notion de croissance, et plus encore, une obligation à la croissance. Nous l'avons lu, Paul fait une comparaison entre le chrétien et l'humain, d'une façon générale. L'humain naît, il commence tout petit par prendre des aliments liquides parce qu'il ne peut pas supporter autre chose. Puis il grandit et il est capable de manger des choses de plus en plus complexes jusqu'à ce qu'il soit un homme accompli. Et pour le chrétien, c'est pareil, nous dit Paul. Il naît de nouveau, mais il naît tout petit. Il reste encore charnel, pas encore spirituel. Et il y a une progressivité dans le parcours du chrétien qui a besoin d'aliments au début simples, puis de plus en plus complexes pour arriver aux aliments solides. Et ce que dit Paul, c'est que ces aliments, eh bien, c'est l'enseignement. Le chrétien, le jeune chrétien, ne peut pas encore comprendre la totalité de l'enseignement. Il y a une progressivité à avoir, il y a des choses à apprendre les unes après les autres pour pouvoir comprendre les choses les plus complexes. Quand on parle d'humain et de croissance, je crois aussi qu'il y a une obligation à grandir. Quand on regarde les bébés, les nouveau-nés, et on en a plusieurs dans l'Église que nous pouvons observer, quand bien même ils le voudraient, ils ne pourraient pas rester à cet âge-là. Ils ne pourraient pas rester dans cette condition physique. La nature, leur nature, les pousse à grandir. Ce n'est pas parce qu'ils mangent qu'ils grandissent, ils grandissent et donc il faut qu'ils mangent pour pouvoir assurer cette croissance. C'est la même chose pour le chrétien. Qu'il le veuille ou non, il doit grandir. Il ne peut pas rester à l'étape de la conversion, de la prise de conscience de ses péchés et du pardon de Dieu. Il a ensuite une vie chrétienne à mener, des défis toujours nouveaux et de plus en plus complexes, des tentations qui viennent et auxquelles il doit résister. Et pour ce faire, il doit grandir pour relever défi après défi et grandir dans la sainteté. Il y a plein de choses à découvrir dans la vie chrétienne. Comment vivre par la grâce? Comment mettre en pratique son salut? Comment vivre pleinement sa foi dans une église locale? Comment vivre la diversité qu'a voulu Dieu? Et vivre avec des personnes différentes de moi que Dieu a choisies pour être mes frères et sœurs? Et tant de choses encore. Tant de choses qu'une vie entière d'études nous réserve toujours une compréhension plus profonde. À travers ce texte, nous voyons donc cette notion de croissance, cette obligation d'obligation à la croissance et à nous nourrir de l'enseignement pour grandir. Cette notion de progressivité, on ne peut pas tout prendre d'un coup. Il y a aussi une notion de mise en pratique. On en parle dans la deuxième partie du développement. Paul écrit, « En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnels ? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine ?» Comment se voit le manque de maturité des Corinthiens par leur comportement? Ici, des passions jalouses et des disputes. Vous souvenez-vous du parcours Bâtir sur du solide? Nous l'avons fait à la rentrée. Nous avons étudié le sermon sur la montagne. Et la première prédication que nous avons eue, le thème de réflexion que nous avons eu, c'était sur la parabole des deux maisons. Voici ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu. « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis, dit Jésus, et qui l'applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. » La différence entre le sage et entre le fou, ce n'est pas qu'il écoute l'enseignement de Jésus, c'est qu'il le met en pratique ou qu'il ne le met pas en pratique. L'enseignement chrétien, l'enseignement du Christ, ne vaut que s'il est mis en pratique. C'est là la vraie religion. Plus qu'une accumulation de connaissances, d'informations, de compréhension, de sagesse, c'est dans la mise en pratique que la vie est transformée. L'enseignement chrétien doit produire du fruit dans nos vies, des choses concrètes, des choses qui se voient. Il y a une autre notion qui est abordée dans 1 Corinthiens par rapport à l'enseignement, peut-être pas tant dans les quatre versets que nous avons lus, mais dans ce que nous avons lu avant et de ce que nous allons lire après, c'est la notion d'autorité. L'enseignement chrétien, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas des spéculations. Ce n'est pas comme... La pédagogie grecque, quelque chose où il faut amener le disciple à réfléchir pour qu'il découvre par lui-même. Hein, la pédagogie grecque est quelque chose qu'on aime aussi aujourd'hui, hein, que chacun sa vérité, il faut l'amener à la découvrir. Non, c'est pas ça l'enseignement chrétien. L'enseignement chrétien, il est révélé. Christ est venu sur terre pour révéler la vérité. Il l'a dit. Je suis la vérité. Il a enseigné ses disciples et il a confié aux apôtres la mission de mettre cet enseignement par écrit pour que nous puissions l'avoir. Et c'est cet enseignement qui nous est transmis et que nous transmettons à notre tour. Ce n'est pas le produit de nos recherches, de nos intelligences. Il y a du travail à faire pour comprendre l'enseignement des apôtres. Mais c'est une vérité révélée que nous enseignons, et non pas le fruit de notre sagesse et de notre intelligence. Jésus a enseigné avec une autorité unique. C'est dit au tout début de l'évangile de Marc. Les auditeurs de Jésus furent impressionnés par son enseignement car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. L'autorité de Jésus était unique. Et quand on lit le Nouveau Testament, les apôtres, quand on lit Paul aux Corinthiens ou à d'autres, on retrouve cette autorité car il expose la vérité. Donc dans ce passage, du début du chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens, on voit Paul qui remonte les bretelles aux Corinthiens. Ce sont des tout petits, immatures. Et ça se voit à la façon dont ils se comportent. Ils ont besoin de grandir en se nourrissant de l'enseignement vrai. C'est une obligation. Parce que ils avancent dans la vie chrétienne et parce que tout être vivant doit évoluer. Cet enseignement doit être progressif, sans chercher à brûler les étapes, mais il doit être continu et de plus en plus riche. Et surtout, il doit être mis en pratique. S'ils ne transforment pas leur vie, c'est qu'ils ne suivent pas cet enseignement. Il est temps de nous poser la question que nous nous posons à chaque fois que nous lisons la lettre aux Corinthiens. Et nous ? Et nous, chrétiens ici, au XXIe siècle, à Clermont-Ferrand, dans cette église, qu'en est-il ? Je crois que, à la suite de ce que le Conseil propose, nous devons reconnaître notre mission d'enseignement, que c'est une mission de notre Église que d'enseigner. La Bible nous le dit, l'argument est massif. Si on regarde le Nouveau Testament, l'enseignement est partout. Je lisais cette semaine un article du théologien Émile Nicole qui écrit sur le sujet « Quels exemples nous donnent Jésus et les apôtres ?» Que faisait Jésus lorsqu'il rassemblait les foules ? Il les enseignait. Que faisait Jésus lorsqu'il réunissait ses disciples ? Il les enseignait. Que font les apôtres dans les lettres qu'ils adressent aux églises et qui étaient destinées à être lues dans les églises ? Ils enseignent. Et si ça ne suffisait pas, eh bien, nous pouvons lire ce que Jésus dit au moment où il monte au ciel, les dernières choses qu'il dit à ses disciples et qu'on retrouve dans Matthieu 28, au verset 19 et 20. Il les invite « Allez donc dans le monde entier faire des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Ces versets, on les connaît. Généralement, on les utilise pour parler d'évangélisation. Mais il y a, au verset 19, un mot quand même sur lequel j'aimerais apporter votre attention. Faites des disciples parmi tous les peuples. Des disciples. Pas des croyants. Des disciples. Des gens qui suivent Jésus, qui suivent son enseignement, qui apprennent de lui. C'est la mission qui a été confiée. Et si on en doutait, Jésus le précise au verset 20, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons raison d'utiliser ces versets pour parler d'évangélisation, pour les lire, pour nous pousser à répandre la bonne nouvelle à nos contemporains. Mais pour aller au bout de ce que nous demande Jésus, nous devons les enseigner et que cette tâche d'enseignement fasse partie de nos préoccupations individuelles et quand nous nous retrouvons en Église. L'Église ne peut pas ne pas transmettre l'enseignement qu'elle a reçu. Dans quel cadre le faire ? J'aimerais ici rendre compte très rapidement, sans entrer dans les détails, d'une distinction qu'on peut faire entre enseignement et prédication. Le Nouveau Testament distingue les deux, enseignement et prédication. Il les distingue, c'est donc deux choses différentes. Et en même temps, quand on regarde les descriptions, ça se recoupe. Peut-être, peut-on dire, la prédication, c'est une prophétie. C'est la prophétie, c'est le ministère de prophétie qui continue. C'est un discours proche de l'événement, proche de ce qu'on vit aujourd'hui, qui part de la parole de Dieu pour dire comment réagir, comment se comporter et guider jour après jour, semaine après semaine. Alors que l'enseignement, c'est quelque chose de... C'est un discours construit qui fait le tour d'un sujet. On va pouvoir présenter un enseignement sur le salut, un enseignement sur le baptême, etc. C'est quelque chose que l'on sait, quelque chose qu'on peut apprendre et qui va rester valable. La prédication, on va y trouver une exhortation à poursuivre, on va y trouver un encouragement dans le doute, quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. Alors, les deux se retrouvent, les deux se recouvrent. Il y a une part évidente d'enseignement dans la prédication. Comme il y a dans l'enseignement plus systématique une recherche à rendre les choses pratiques pour qu'elles soient applicables. Si j'attire votre attention là-dessus, c'est pour que vous ne limitiez pas votre vision de l'enseignement à la prédication. On ne se nourrit pas, on ne grandit pas uniquement à partir des prédications. La prédication est essentielle, importante. Nous avons une opportunité d'entendre la parole de Dieu toutes les semaines, ne la négligeons pas. Mais il existe aussi d'autres moyens qui peuvent être adaptés à telle ou telle période de notre vie pour compléter cet enseignement. Notre Église met en place des préparations au baptême, au mariage, ou un enseignement ponctuel est donné à un moment où on en a besoin. Nous avons des études bibliques dans lesquelles on s'éloigne un peu de l'événement pour se concentrer sur le texte biblique, mieux le comprendre et être capable comme ça de construire une réflexion dont on pourra se servir tout au long de notre vie. Il existe à l'Église ou à l'extérieur des formations, des cours de toutes sortes, pour tout niveau, qui peuvent nous intéresser et nous fortifier dans notre connaissance et dans notre foi. Donc, la prédication est un élément important de l'enseignement, mais ce n'est pas le seul. Autre question, qui enseigne? Quelle est notre responsabilité face à cet enseignement? Qui enseigne? Eh bien, des personnes que Dieu lui-même a choisies, a instituées. Il y a ce texte connu d'Éphésiens 4 qui dit, à propos de Dieu, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. C'est Dieu qui a fait don de ces personnes. Il les a données à son Église. Des apôtres, premièrement, ceux qui ont consigné l'enseignement de Jésus dans le Nouveau Testament. Ce ministère-là est terminé. Le Nouveau Testament est bouclé. Mais Dieu donne encore aujourd'hui des prophètes, les prédicateurs qui, chaque semaine, apportent la parole de Dieu. Et il donne également des pasteurs enseignants, les deux termes sont associés, des personnes capables d'enseigner les vérités, à la fois pasteurs, proches des gens et de leurs préoccupations, et à la fois enseignants, capables de prendre du recul et de construire un enseignement global sur un sujet. Ces enseignants, qu'ils soient prophètes ou pasteurs enseignants, comme les apôtres avant eux, ne sont pas là pour faire avancer la science, pour faire part de leurs idées. Ils sont là pour transmettre ce que le Seigneur leur a appris. Et on peut citer un autre verset célèbre, 2 Timothée 2, verset 2. où Paul exhorte le jeune Timothée en lui disant « L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » L'enseignement ne doit pas être innovant. Il doit transmettre fidèlement l'enseignement apostolique. Et on a ainsi des apôtres qui ont transmis l'enseignement à des enseignants, qui l'ont transmis à d'autres enseignants, et ainsi de suite, jusqu'à nous. Et notre mission est de transmettre cet enseignement aux chrétiens qui nous suivront. Peut-être vous vous dites, moi je ne suis pas enseignant, en quoi est-ce que cela me concerne ? Je crois que si l'enseignement est aussi important, nous avons tous un rôle dans cette histoire. Nous avons tous un rôle dans cette mission. Nous avons le rôle d'apprendre, de nous ouvrir à cet enseignement, de rechercher la croissance. Et nous pouvons le faire déjà lors du culte, à la prédication. Interrogeons-nous. Pourquoi est-ce que nous venons au culte ? Est-ce pour passer un bon moment, chanter de beaux chants, trouver des copains ? Ou est-ce que nous venons là pour apprendre ? Nous devrions y venir dans l'optique d'apprendre, de venir chercher des choses à mettre en pratique dans nos vies. C'est ainsi que nous devrions écouter la prédication dimanche après dimanche. À côté de la prédication, il y a d'autres supports dans lesquels nous enseignons dans notre Église. Il y a l'école du dimanche, les enfants sont réunis à côté, et des moniteurs institués par l'Église inculquent à nos enfants les récits bibliques et leur forgent un bagage utile pour tout chrétien, pour comprendre la foi. Nous avons des études bibliques qui nous permettent de mieux comprendre un texte, un livre biblique. Et puis nous avons les préparations au baptême, au mariage, etc. À côté de cela, il existe des livres, nous avons la chance d'avoir une belle bibliothèque, des cours, des formations, que ce soit à l'intérieur de l'Église, nous en organisons parfois, ou à l'extérieur et nous invitons à y aller, à destination de tout le monde. Tout le monde peut trouver quelque chose à son niveau, qu'il ait un niveau universitaire ou qu'il ait fait des études plus modestes. Je me souviens avoir entendu un responsable de la formation de notre fédération parler de personnes qui avaient fait de grandes études, mais qui, sur les choses de la foi, étaient des bêtasous. C'est le terme qu'il avait employé, ça m'a marqué. Des bêtasous pour les choses de la foi. Nous avons la responsabilité de nous nourrir également dans le domaine de la foi à la hauteur de nos capacités intellectuelles. Parce que dans la vie, nous sommes confrontés à des gens de notre niveau qui vont nous poser des questions complexes. Et si nous ne savons que leur servir des réponses basiques, nous serons assez peu efficaces dans notre témoignage. L'enseignement. Vaste programme pour cette mission de l'Église. Il y aurait encore certainement plein de choses à dire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans cette semaine qui a été troublée, je crois qu'il est bon de savoir que nous ne basons pas notre parcours sur des sentiments, sur des ressentis, mais que nous le basons sur la vérité. Une vérité qui est révélée, qui est immuable. Et je crois que nous devrions nous attacher à son étude, à persévérer dans son apprentissage et dans son enseignement. L'enseignement est une de nos missions. Et voici ce que le théologien Wayne Grudem écrit à ce sujet. L'Église a le devoir de nourrir ceux qui sont déjà croyants et de les amener à la maturité dans la foi. Paul déclare que son but n'est pas simplement d'amener les gens à la foi qui sauve, mais de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. C'est notre mission. Il nous faut la reconnaître, il nous faut en être concernés. En soignant notre apprentissage de façon individuelle et en Église, en mettant un grand soin sur l'enseignement. Grand soin par le choix de nos enseignants et de nos prophètes, par leur formation, par le programme d'Église que nous constituons. Nos amis corinthiens avaient besoin d'entendre ce rappel, eux qui se perdaient dans la recherche de vérités cachées. Ils avaient besoin d'entendre ce rappel d'un enseignement d'autorité, de la transmission de la vérité, et pas de la recherche de spéculation. C'est obligatoire pour la croissance, pour la vie. Et ce rappel, nous aussi, nous en avons besoin. Jésus, notre Seigneur, a choisi pour son ministère terrestre d'être un enseignant. Cela doit orienter notre vie personnelle et notre vie d'Église. Nous avons, pour répondre à cette mission, la double obligation d'enseigner, de laisser pour nos vies une grande place. Nous avons deux obligations, je reprends. L'obligation d'enseigner, de laisser dans notre programme d'Église une grande place à cet enseignement, à y mettre de l'importance. Et au niveau personnel, l'obligation d'apprendre, pour toujours mieux le connaître et pour améliorer notre enseignement. Je vous propose de prier. Seigneur, ce matin, nous comprenons que tu nous as donné pour mission d'enseigner. Nous comprenons cette mission aussi bien pour chacun d'entre nous que nous devons nous astreindre à l'apprentissage, mais aussi pour notre Église que tu nous appelles à mettre en place un enseignement solide. Et Seigneur, nous voulons devant toi humblement te demander pardon de parfois l'oublier, de parfois ne pas y mettre la priorité nécessaire. Que ce soit dans l'attention que chacun porte à cela ou que ce soit dans le choix de notre Église. Nous te demandons, Seigneur, de raviver en nous ce zèle, de l'entretenir. Donne à chacun d'entre nous la soif de toujours plus te connaître et donne-nous ensemble la volonté de te faire connaître. Et aide-nous à remplir cette mission, chacun pour sa part. Au nom de Jésus, notre Maître, nous te prions. Amen.